Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral Marseille pour un nouveau numéro de 100% Foot, votre émission consacrée au football et à l'Olympique de Marseille. En ma compagnie, comme d'habitude, chaque semaine, Franck et Patrick. Bonjour messieurs.
Bonjour chérie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Je laisse Franck s'exprimer avec ses mots.
Non.
Je dis bonjour à toutes et à tous.
Voilà.
Je pense qu'on est sur une liaison parfaite.
Voilà.
Impeccable. Voilà. Ben, on se retrouve pour un nouveau numéro de 100% Foot. Voilà. Deuxième numéro de l'année 2026.
Et déjà.
Une actualité chargée cette semaine. On ne va pas perdre de temps parce qu'il y a un programme copieux et chargé qui nous attend avec... D'habitude, une triste nouvelle. On va d'abord commencer cette émission avec le décès de Roland Courbis qui nous a quittés dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 72 ans. Voilà, encore une grosse perte pour le football français, pour le football régional avec ce grand monsieur qui était Roland Courbis après la perte de Jean-Louis Gasset qui a fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille il y a 2 ans.
Le football en lui-même, tout à fait.
Voilà, on va parler de Coupe de France aussi. C'était un week-end de Coupe de France pour nos féminines de l'Olympique de Marseille, ainsi que pour les garçons qui ont eu une balade de santé hier soir en Normandie face à une modeste équipe. Mais bon, ils ont quand même fait le boulot. Il fallait marquer 9 buts. Donc voilà, le carton de ces 16e de finale de la Coupe de France, on va y revenir grandement. On va évoquer aussi le trophée des champion qui a eu lieu en fin de semaine dernière avec un scénario cruel pour l'Olympique de Marseille. L'actualité mercato aussi, puisque on est le 14 janvier et vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste encore 17 jours durant cette fenêtre de marché hivernal.
Ça part de là.
Il y a pas mal de mouvements ces jours-ci, là, de ces dernières heures à l'Olympique de Marseille, dans d'autres clubs. Bon, on fera un focus sur les mouvements qu'il y aura là, entre les départs, les arrivées qui sont susceptibles d'avoir. Et on aura un petit mot enfin sur la Coupe d'Afrique des Nations. Dont on connaît le dernier carré et dont les matchs se dérouleront aujourd'hui fin d'après-midi en soirée.
Sommes mercredi 14 janvier, donc les deux demi-finales, aujourd'hui.
Voilà. Oui. D'abord, on va commencer avec, comme je le disais en préambule, avec une bien triste nouvelle. Voilà, on a appris le décès de Roland Courbis à l'âge de 72 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, probablement lié à une infection pulmonaire. On sait qu'il avait pris du recul ces derniers temps sur ses activités professionnelles, notamment à la télé, sur la chaîne L'Équipe. Toi, Patrick, tu reviens toujours sur les visionnages des émissions. Voilà, depuis peu, on sait qu'il avait pris la place de Gervais Martel en tant que président le lundi soir dans l'équipe du soir aux côtés d'Olivier Ménard.
On l'avait perçu très très amaigri ces derniers temps quand il a été télévisé et évidemment qu'on pouvait imaginer un problème de santé important. Ouais.
Voilà.
Malheureusement.
C'est il était... Bon, moi, ça me touche parce que pour une raison simple, c'est qu'il était plus jeune que moi.
Donc, j'ai pas posé.
Bon, donc après, voilà. Mais voilà, pas de beaucoup, d'un an, mais enfin, il était plus jeune que moi.
Effectivement, après Jean-Louis Gasset, Roland Courbis.
Et Roland Courbis, quand j'étais minot, j'ai joué contre lui. Il jouait à l'OM, mais il était milieu de terrain. Il n'était pas encore défenseur central, c'était un cadet, un junior. Et c'était un très bon joueur de ballon, très vicelard, très requin,
très rugueux aussi, on sait que...
Oui, rugueux, mais bon, à l'époque...
Dans le bon sens du terme.
Voilà, du terme. Par contre...
Après, c'est vrai que moi, on a, pour nos auditeurs les plus anciens, on a le souvenir de la défense qui formait du côté du Sporting Club de Toulon.
Alfano, Luigi Alfano.
Très habile, libéro moderne, pourtant, pour les
Fin joueur, moi quand je l'avais joué en cadet, mais c'était un. Parce que, bon, il y avait Albert Raymond, l'ancien entraîneur de l'OM aussi, qui était au-dessus.
Ça,
mais Courbis,
c'était
un sacré joueur de ballon. Par contre, requin, malin, rugueux, truqueur, enfin vraiment le rusé, quoi. Et moi, il m'avait particulièrement impressionné.
Il
parce
avait
qu'il
tous
était,
les bagages
il
du
avait,
football.
Voilà. Et donc, je l'ai connu là. Et je l'ai connu après comme entraîneur, etc. Et même si Il est associé à une année, en 99, où on aurait pu jouer le titre.
On aurait pu.
Ouais, moi, j'ai mis des années à le digérer, mais, mais voilà. Mais après, bon, il a fait ce qu'il a pu. Hein, c'était un bon entraîneur.
On parle bien du titre de champion de France.
En 99, ben, voilà.
C'est vrai
Bordeaux.
Que quand il y a eu ce scénario incroyable avec ce but de Fandounou, dans les derniers instants sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG et Bordeaux.
On a, on a tous tapé sur Paris en disant qu'ils avaient lâché le match à Bordeaux, ce qui, pour avoir vu le match, n'est pas forcément faux, d'ailleurs.
Voilà,
tandis que l'OM s'était imposé du côté de Nantes, sur la pelouse de la Beaujoire, je crois que grâce à un but de Robert Pires.
Et donc, c'était une année, la fameuse année du 5-4 contre Montpellier.
C'est vrai que ça a été un match incroyable.
Fabuleux.
Et je crois que même lui, il avait mal encaissé le fait de pas. C'est une année où tu joues le titre et tu le perds dans les arrêts de jeu de la dernière journée. Ou si tu gagnes, tu gagnes à Nantes. Si Bordeaux-Paris font match nul, tu es champion et tu perds la finale de l'Europa League à Moscou contre l'équipe de Parme.
Ne l'oublions pas.
Énorme équipe.
Là aussi,
une très grosse équipe.
Voilà.
La Coupe de l'UEFA.
La Coupe de l'UEFA.
À l'époque, c'était pas encore.
Ça l'était encore.
C'était la Coupe de l'UEFA.
C'était pas encore l'Europa League. Et disons que c'est vrai que ça te reste en travers parce que tu aurais pu faire une année extraordinaire avec deux titres. Et finalement, il y a une finale perdue.
Les deux nous sommes passés sous le nez.
Voilà. Et une place de deuxième au niveau du championnat de France de première division, puisque à l'époque, c'était encore
là. D'après ce qui se dit, Roland Courbis, il n'avait pas digéré, parce que certainement, ça lui aurait valu une reconnaissance. Parce que ce qui est un peu gênant dans certains discours qu'il y a sur sa mort, je me permets de le dire, c'est que tu as l'impression que c'était un personnage pagnolesque, qui avait beaucoup d'humour, beaucoup de tchatch. C'était aussi
ce qui n'est pas faux, mais il ne faut pas le cantonner à cela.
C'est réducteur que de dire ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui connaissait très très bien le football. Et c'est vrai que malheureusement, ça fait 48 heures qu'on a appris son décès. Et puis bon, les hommages sont unanimes de la part de tout le monde. Des personnes du monde du football, comme des personnes qui ne sont pas, qui sont totalement...
Médias, puisqu'il était beaucoup
c'est
à
vrai
la
que
radio.
Ces derniers temps, on le connaissait comme étant un homme de médias, consultant pour RMC, pour l'équipe.
Un homme qui ne laissait insensible personne, toujours...
Donc, oui, et c'est vrai qu'il avait des analyses très, très pointues,
très pertinentes,
d'excellente qualité, mais c'était quand même un bon joueur, un très bon joueur, et c'était un entraîneur, un bon entraîneur, c'était pas Guardiola.
À l'image de son jeu, un joueur intelligent, un entraîneur très intelligent.
Un très bon entraîneur, excellent meneur d'hommes, mais pas uniquement la grande gueule, quoi. Tactiquement, il touchait sa bille. Et il lui a manqué peut-être un peu de réussite sur 2-3 pour avoir des trophées qui font que la reconnaissance aurait été un peu plus importante. En tant que joueur, c'est pour ça que je disais que le réduire au côté pagnolesque, humour, la tchatche, c'est un peu très limitatif, quoi.
N'oublions pas, ses jours en Grèce également, lorsqu'il était joueur, et voilà, donc il a pas mal bourlingué dans sa carrière.
Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, avec un nom comme Courbis, c'était compliqué pour aller jouer dans le championnat grec. Donc,
d'autant plus.
Il a fait croire avoir des origines par rapport à un grand-père qui descendait tout droit de l'Olympe et du peuple hélène.
On se souvient de cette anecdote qui a traversé les années, évidemment.
Voilà. Mais de toute façon, on va garder le souvenir du joueur, de l'entraîneur, de l'homme de radio.
De l'homme.
On évitera de s'étendre sur les côtés un peu plus sombres et, ma foi...
C'est vrai que ça a été un personnage aussi sulfureux, puisqu'on sait qu'il a eu des démêlés avec la justice.
Il a fait un court séjour
en prison.
C'était une période à ce moment-là. Bon, on ne va pas parler aussi de la marquise, évidemment.
Et des casinos.
Non,
mais on restera sur le joueur, l'entraîneur.
L'homme.
Et l'homme qui aimait l'OM. Ça, c'est indubitable. Il était marseillais. il avait débuté au club, formé au club, et je crois que l'OM était son club avec Ajaccio pour des raisons,
son club,
des raisons affectives, mais et c'était son club et il a toujours défendu. Et c'est vrai que quand il commentait à la radio, c'était un de ceux qui te défendait par rapport à certains qui, à chaque occasion, te mettent un coup de couteau.
Tout simplement naturel. Et puis malheureusement, on n'est jamais prophète dans son pays. Et ça n'a pas été le cas.
Ben voilà, on s'associe au nom de toute l'équipe de Fréquence Mistral pour souhaiter bon courage à ses enfants, Olivia et Stéphane aussi. On leur présente nos plus sincères condoléances dans ce moment difficile. Voilà, Roland Courbis qui sera incinéré au cimetière Saint-Pierre samedi après-midi avec une messe religieuse à l'église des Réformés. Tandis que cet après-midi, il y aura déjà un premier hommage qui aura lieu dans la capitale à Paris, à l'église Sainte-Madeleine. Voilà, c'est le vœu et la volonté des enfants et de la famille. Voilà, donc... Repose en paix, Roland. Voilà, comme on dit. Voilà, on va passer à des choses un peu plus réjouissantes avec le terrain et les féminines qui se déplaçaient ce week-end pour les 16e de finale de la Coupe de France, comme les garçons sur la pelouse de Evian Thonon de Grand Genève. Et qui s'est imposé par le plus petit des écarts. 1-0 pour les filles de Corinne Diacre.
Cela a suffi pour tomber sur, malheureusement, un adversaire qui sera beaucoup plus difficile à battre en huitième de finale.
Voilà, puisqu'on connaît le tirage au sort, et ce sera plus ou moins difficile, puisque ce sera les tenants du titre.
Tout simplement.
L'Olympique Lyonnais. Voilà, les Lyonnes de l'Olympique Lyonnais.
Donc, j'espère que le match aller du championnat leur servira d'expérience à nos Olympiennes. Ouais.
Voilà. Une rencontre qui aura lieu le week-end du 24 et 25 janvier.
Mais bon, elles se sont qualifiées, ce qui est bien. Après Lyon, c'est pas de chance. C'est de loin l'équipe qui est archi au-dessus en première division féminine. Mais il y a un match important ce soir.
Voilà, je voulais faire la transition au niveau du championnat.
Le match de championnat.
L'Arkema Première Ligue qui reprend ses droits avec la réception pour nos filles de l'OM à Francis Turquin ce soir. Voilà, cette équipe stéphanoise qui occupe la 12e et dernière place de ce championnat.
C'est le moment de creuser l'écart avec cette équipe.
Il y a 4 points d'écart entre les Marseillaises et la Saint-Étienne qui occupe la place de Lanterne Rouge.
Il faut gagner ce soir pour évidemment distancer l'équipe relégable qui sera Saint-Étienne et pas nous.
Voilà, donc pas de droit à l'erreur pour les filles de Corinne Diacre ce soir à l'occasion de cette 12e journée d'Arkema Première Ligue.
Totalement d'accord.
Voilà, donc on reviendra sur cette rencontre la semaine prochaine et on va évoquer un petit mot de Coupe d'Afrique des Nations aussi avant d'entamer la grosse partie
d'actualité,
l'Olympique de Marseille et le Trophée des Champions et le 16e de finale hier soir.
Très rapidement, on va enchaîner sur la CAN. Un petit mot sur Aubagne qui jouera vendredi.
Oui, c'est vrai que
la journée de championnat, ce vendredi-là, donc nous sommes bien mercredi 14 janvier, donc ce vendredi à 19h au stade de l'Âtre.
La réception du Paris 13 Atlético.
Oui, complètement.
Le retour du championnat national pour les joueurs de Gabriel Santos. Voilà.
Pour Aubagne de continuer à engranger des points.
Voilà. Et un petit mot aussi concernant on va évoquer le mercato de l'Olympique de Marseille. Un petit mot avec une recrue du côté du Stab d'Aubagne-Herbel. L'arrivée de Karim Tilly qui a porté les couleurs du FC Martigues.
Belle surprise.
Voilà.
Un joueur intéressant, expérimenté.
Très intéressant, oui, c'est à ce niveau-là.
Une recrue de choix pour cette équipe du Sporting Club Aubagne-Herbel.
Qui est une équipe tranquille dans le haut du tableau, qui est un peu loin pour jouer la montée.
L'équipe cible l'équilibre.
Voilà, il faut tranquillement se maintenir. Et c'est vrai que Karim Tlili, c'est une recrue intéressante parce que joueur d'expérience.
Son expérience parlera.
Et bonne mentalité.
Son expérience en Ligue 2 du côté de la Venise Provençale avec le FC Martigues fera le plus grand bien à cette équipe d'Aubagne pour cette deuxième partie de saison.
Voilà. L'aventure continue.
Voilà, juste avant d'entamer la grosse partie Olympique de Marseille, on va parler un petit mot de la Coupe d'Afrique des Nations qui reprend ses droits avec les demi-finales qui auront lieu ce soir.
Deux très belles affiches.
Voilà, 18h, ce sera du côté de Tanger le Sénégal de Sadio Mané qui défiera son ancien coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, qui refait surface et qui brille énormément du côté de l'Égypte.
Si, voilà. On peut le regretter au niveau de Liverpool, pour l'Égypte, ce n'est pas un souci.
Voilà, mais oui, on sait que dès qu'il revêt ce maillot de la sélection égyptienne, il retrouve ses jambes de 20 ans, lui qui a 34 ans, le capitaine de la sélection égyptienne.
Tu as énoncé un dénominateur commun de deux grands joueurs qui se font face. C'est fabuleux, de Salah à Sané, ça va être...
Ouais, ça a dû en manier, oui.
Et c'est, une affiche c'est, fabuleuse, ouais.
C'est un match comme l'autre match, d'ailleurs, hein, qui est entre le Maroc
à 21h, du côté de Rabat. Ce sera le pays hôte, la sélection de Walid Regragui, le Maroc, de Nayef Agger, d'Achraf Hakimi, qui défiera le Nigeria.
Quelle opposition!
Le Nigeria qui a impressionné le monde lors des quarts de finale et cette élimination face à l'Algérie. Voilà, une équipe algérienne qui n'a pas existé face à...
Une équipe compensée simplement robuste, mais une année poème, c'est une très très belle équipe.
Et saluons le travail de Eric Chiel, ancien pensionnaire du FC Martigues, qu'on connaît bien.
Absolument.
Qui est à la tête des Super Eagles nigériens depuis presque un an et qui fait un boulot remarquable. Mm-hmm. Le Nigeria qui sera absent de la Coupe du Monde cet été...
C'est vrai.
Qui ont raté leur billet pour les États-Unis face à la République démocratique du Congo.
C'est une équipe très imprévisible, le Nigeria, mais très talentueuse.
Il y a beaucoup d'atouts dans son jeu.
Avec un gros potentiel offensif.
C'est assez énorme.
Et on peut citer aussi Akor Adams, ancien joueur de Montpellier, qui joue pas énormément en Espagne avec le FC Séville et qui a marqué d'ailleurs lors du match contre l'Algérie.
Oui, mais c'est une équipe qui a de la qualité, qui est un peu irrégulière, qui est un peu surprenante. Mais enfin, c'est une équipe où il y a quand même de très beaux joueurs. Et le match contre le Maroc va être énorme, parce que le Maroc, c'est une grosse équipe.
Mais on les attend en tournant en tant que pays hôte. Et c'est vrai qu'il y a une énorme pression sur Walid Regragui, le sélectionneur, et sur cette équipe marocaine qui commence à monter en puissance. On les a vus quand même en difficulté face à la Tanzanie à l'occasion du 8e. Et là, on a vu un très bon match lors du quart face au Cameroun. Donc,
Ils ont pu se reprendre de la meilleure des manières sur ce quart. Ouais, tout à fait.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce sera un très gros test, cette opposition face aux Nigériens, face aux Super Eagles ce soir.
C'est le test ultime avant la finale.
Peut-être une finale avant la lettre.
Oui. Mais attention, parce qu'on considère le Sénégal comme le Sénégal et le Maroc comme les deux favoris. Mais moi, je pense que l'Égypte, c'est une équipe extrêmement expérimentée. N'oublions pas que les Égyptiens ont des gros clubs qui brillent toujours.
Le club de Pyramids, le club de.
Par exemple,
qui brille tous les ans en Ligue des Champions
de Al-Ahly
africaine.
Aussi.
Voilà. C'est des belles Amalek, c'est des grosses équipes
du Caire.
Les demi-finales sont des affiches.
Et on s'aperçoit que dans cette équipe des pharaons égyptiens, il y a énormément de joueurs qui forment l'ossature de la sélection, qui jouent au pays, qui jouent dans le championnat. Il y a très peu de joueurs expatriés. On parlait de Mo Salah du côté de Liverpool.
C'est un peu l'exception de ce groupe.
Sur le banc, on connaît
Mohamed
qui joue à FC Nantes. Omar Marmouche aussi,
qui joue à Man City.
L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort qui fait les beaux jours de Man City aujourd'hui.
Par exemple, les expatriés.
Mais c'est vrai que c'est une équipe très costaud, très européenne au sens organisation de jeu. Et les quatre équipes sont de très haut niveau. À mon avis, tu ne peux pas dire lequel est le favori parce que...
Je ne sais pas si vous avez vu la rencontre en quart de finale des Égyptiens face à la Côte d'Ivoire.
Oui. Costaud.
Vrai que face au tenant du titre, face à cette équipe des éléphants ivoiriens, on a vu quand même une très belle équipe d'Égypte qui a montré un visage très très séduisant. Donc je pense que pour le Sénégal, ça va être un match compliqué.
Et les quatre équipes se tiennent, et bien malin celui qui peut dire ça va être un tel. C'est une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Avec malheureusement des polémiques sur l'arbitrage.
Il y en aura toujours.
Et puis, En Afrique, on sait que c'est d'ailleurs, à mon avis, le problème du Maroc.
Et puis, c'est une découverte aussi de la VAR pour l'arbitrage en Afrique. Ouais, donc,
c'est la pression politique, c'est-à-dire que tu as l'impression
que mène le bal, malheureusement.
Une défaite. Ouais.
C'est une première au niveau de la VAR pour une grande compétition internationale sur le continent africain.
Pour l'appréhender au niveau arbitral, ce n'est pas évident.
Et c'est pas évident et il y a une pression d'enfer. Le moindre décision, il y a toujours des décisions douteuses. Mais ça finit en polémique. On a vu le match de l'Algérie où ça a
discutable
terminé...
Discutable et trop discuté, malheureusement.
Voilà, mais ça a terminé d'une manière quasiment bagarre.
Ouais. C'est vrai que ça s'est bien mal terminé. Puis bon, d'ailleurs, à cette occasion, il y a le fils de Zinedine Zidane qui défendait le but des Fenech, Lucas Zidane, avec la sélection
Algérie. Il est vrai, c'est vrai.
Qui a annoncé sa retraite internationale. Ouais, c'est surprenant, mais bon, apparemment... Bon, on sait que
décision mûrement réfléchie ou un coup de sang.
Voilà, on ne sait pas. Ouais, bon.
Ouais. Après, il y a peut-être parce que lui, il a été formé en Espagne et tout, il a été international espoir français et tout. Hein, Lucas Zidane, le gardien.
Il a fallu faire un choix.
Il sait que l'équipe de France. C'est trop loin pour lui.
On verra si le sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic va être maintenu dans la perspective de la Coupe du Monde qui attend l'Algérie
cet été. Là aussi, il y a un point d'interrogation.
Et après, le problème que tu as en Afrique, c'est peut-être ça qui lui fait un peu peur, c'est que le moindre truc prend une ampleur démentielle, politique. Alors, on a vu avec le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang.
On a vu toutes les polémiques qui s'en sont suivies avec l'ex-fusion de Pierre-Emerick Aubameyang, de la sélection Bruno Ekwelemanga.
Alors que, en fait, ils ont été battus par meilleurs qu'eux. Ils étaient dans le groupe de la mort, qu'on appelle, avec des grosses équipes. Ils ont été battus. Ils n'ont pas été ridicules, ils perdent 3-2, 2-1, enfin, ils n'ont pas pris 9-0. Quoi. Et de suite, l'équipe est dissoute, tout le staff est viré, les joueurs sont exclus. Enfin,
c'est vrai que ça prend une ampleur démesurée à chaque fois.
Vous n'ignorez pas que c'est l'extra-sportif qui prend le pas, malheureusement, dans ces
situations-là. C'est vrai que c'est des situations qu'on a tendance à voir trop souvent sur le continent africain, dans certaines sélections.
Ça fait partie du folklore, mais on pourrait s'en passer.
Oui, mais voilà, parce que sur le match, moi j'ai des amis qui ont vu le match de l'Algérie. Je te dis, ils ont été battus.
Voilà, il y a match.
Il n'y a pas eu photo sur cette rencontre.
Non, on
s'était quitté la semaine dernière, juste avant le huitième de finale face au Congo. On a vu quand même les difficultés. On a vu cette équipe du Congo a donné du fil à retordre à cette sélection algérienne avec ce but extraordinaire du petit Boulbina en fin de rencontre.
Dans le 119e.
Voilà, dans le temps additionnel. Presque de la prolongation.
Un scénario qui a failli surprendre de tout son long.
Après, il y a un moment donné où les mecs sont meilleurs et tu vas chercher des polémiques sur des décisions arbitrales. Alors, c'est vrai qu'il y a des décisions qui ne sont pas nettes, mais il y en a tous les dimanches en championnat de France.
On retrouve le même scénario quasiment tous les week-ends sur les pelouses de Ligue 1 et dans les grands championnats européens également.
VAR ou pas VAR, il s'agit de décisions humaines.
Qui sont des fois douteuses. Moi, pour avoir vu 3 des 4 quarts de finale, c'est plutôt le pénalty pour Mbeumo, le Camerounais.
Ah oui, c'est vrai.
Que j'ai trouvé.
Je vois cette action.
J'ai trouvé que ça se sifflait largement. Et c'est plutôt eux qui, parce qu'ils étaient menés qu'un zéro.
Ça pouvait tout changer.
Et c'est le pays organisateur qui joue en place.
Tu reviens sur la rencontre entre le Maroc et le Cameroun à l'occasion du quart de finale.
Et le Maroc menait 1-0, logiquement, parce qu'ils avaient fait un bon match. Et le Cameroun a une situation très scabreuse. Et à la limite, je retiens plus où ils ont été. Ils ont vraiment gêné le Maroc. Ils prennent un but après en fin de match. Mais parce qu'ils sont tous à l'attaque.
Et oui, la décision s'est faite
tu peux toujours chercher des complots et tout. Est-ce que c'est ça qui fait un peu peur à Lucas Zidane, l'ambiance, avec le nom qu'il porte en plus?
Je crois qu'il n'était pas dupe dans la situation.
Mais en tout cas, c'est dommage que bon parcours. Ils sont allés en quart de finale, ils ont mérité.
Mais c'est quand même une décision surprenante, là, sachant que c'était ses premiers pas sous les couleurs algériennes. Et puis, une grande compétition internationale, sachant qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive dans 5 mois aux États-Unis pour...
Peut-être on saura un jour pourquoi.
Ce fut une choix marquant dans sa carrière professionnelle, mais là, c'est une choix véritablement qui va déterminer la suite. Maintenant, on en saura plus dans quelques temps.
Après, au-delà des absences, Amine Gouiri, qui a déclaré forfait, Ismaël Benacer, qui malheureusement s'est blessé... Lors du 8e de finale face au Congo la semaine dernière, a dû déclarer forfait. Donc,
super joueur, mais fragile.
Très, très fragile, le milieu de terrain du Dinamo Zagreb.
Qui a joué quelques mois à l'OM. S'il n'avait pas été si fragile et très souvent blessé, on l'aurait sûrement gardé.
Puis bon, je pense que du côté de l'Italie et de l'AC Milan, on connaît bien les problèmes récurrents et le physique fragile du milieu de terrain algérien. Ouais.
Voilà. Enfin, nous verrons ce soir dans les résultats.
On verra. Il y aura un match pour la troisième place samedi à 17h et la grande finale dimanche à Rabat.
Dimanche, tous en chaîne, là, rapidement.
À 20h. Donc, ce soir, à vos postes.
Les sommes place au demi.
Voilà. Sénégal et...
Égypte
et Maroc, Nigeria.
Nigeria, évidemment. On ne sait pas qui reçoit ou qui ne reçoit pas, on verra bien.
Officiellement, personne ne reçoit.
Personne ne reçoit, c'est demi-finale.
Il n'y a que le Maroc qui fait office de pays
organisateur
qui reçoit à domicile, puisque je pense que dans l'enceinte de Rabat, il y aura un stade acquis à la cause des Lions de l'Atlas.
On peut l'imaginer, c'est vrai.
Voilà. On referme cette parenthèse africaine et cette Coupe d'Afrique des Nations. On y reviendra en plus en détail sur les demi-finales et la finale la semaine prochaine. Oui. Voilà, on va attaquer le gros morceau, la grosse partie avec l'Olympique de Marseille, qui se déplaçait au Koweït jeudi pour finale de Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain. Et un scénario cruel. Voilà. Juste un petit mot, vous avez eu l'occasion de voir le match, je suppose, jeudi.
Oui.
Voilà, c'est...
Je pense qu'on peut être unanime sur les sentiments que nous avons partagés. C'est-à-dire que quel scénario.
Un trophée nous tendait les bras à quelques minutes de la fin.
Ce qui est problématique, à mon avis, c'est que à la 90 plus 5, donc il y a 2 minutes du coup de sifflet, puis il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu, tu prends un but sur un contre.
Oui.
Voilà. Moi, c'est ça qui me... Alors, on peut critiquer...
Barcola, Ramos, côté parisien, qui amène ce but égalisateur, qui nous amène tout droit vers la séance de tir au but.
Alors, il serait facile de jeter la pierre, parler d'Aubameyang, de dire pourquoi,
C'est vrai que juste auparavant, il y a l'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille qui rate quasiment une occasion...
Alors, quelle était la décision
facile
à prendre
face à Lucas Chevalier.
Dégager le ballon loin en tribune, essayer de marquer le but
après le match, il y a des gens qui disent il aurait dû tirer, il s'y rate, au moins il faut qu'il remette en jeu. Il a tenté un crochet sur Pacho, le défenseur équatorien du PSG, qui a contré. Ce qui fait, mais s'il réussit son crochet, il se retrouve seul face au goal. Ça peut faire 3-1. Et sur le contre...
D'où le contre, Thierry.
Tu as un ballon, une ouverture de 40 mètres. Et ce qui est problématique tactiquement pour l'OM, c'est que Ramos, il traîne, il est hors jeu de position. Il y a le centre en direction, mais c'est Barcola. Et il se replace. Et du coup, quand Barcola lui fait la passe de la tête, il n'est pas hors jeu. Mais... Il a l'avantage.
Donc là, à ce moment-là, pour vous, si on vous écoute, il y a l'arbitre de la rencontre, M. Léonard, qui prend la bonne décision en validant ce but égalisateur parisien.
Quand tu regardes le règlement, l'OM avait bénéficié de 2 buts refusés pour des raisons de hors-jeu de position. Mais moi, je me rappelle le match contre Nantes. Après, on a quand même perdu, mais El Arabi... il fait action
souvenir.
De jeu, le
le premier but nantais qui est annulé par M. Boulanger dernier au Vélodrome.
Il fait action de jeu.
Tu trouves une analogie avec l'action d'égalisation du Paris Saint-Germain.
Voilà. Et là, le mec, il est en jeu de position au début de l'action. Mais quand il y a la passe...
Il y a un fait à peu près similaire à 4 jours d'intervalle,
Il ne l'est plus. Et non, si tu prends le règlement, il ne fait pas action de jeu quand il est hors-jeu. Alors qu'El Arabi, il est en position de hors-jeu, il ne touche pas le ballon,
voilà.
Mais il fait un bloc sur le défenseur qui l'empêche
d'intervenir.
Je crois que c'est Egan Riley qui l'empêche d'intervenir. Et il est dans l'axe de vision de Rouli, le gardien de but, qu'il gêne parce qu'il est devant, il se déplace devant lui.
Donc il y a cette gêne par rapport
donc,
à notre gardien de but.
L'arbitre a refusé parce que le mec, tout en n'ayant pas touché le ballon, il fait action de jeu.
Ouais.
Voilà. Alors que Ramos, il ne fait pas action de jeu. Mmh. Il est hors jeu. Mmh. Il se replace. Et,
mais bah, c'est il y a un jeu de position qui n'impacte pas sur l'action en elle-même.
Sur l'ouverture de la passe de la tête de Barcola, il est... il est bien placé par rapport à la défense parce qu'il était hors-jeu au départ. Mmh. Voilà. Mais techniquement, comme il ne faisait pas action de jeu sur la première action, oui, c'est cohérent de ne pas refuser. Par contre, moi, ce qui me fout les boules, c'est qu'à la 95e, à 2 minutes de la fin des arrêts de jeu d'un match où tu gagnes un titre, le premier depuis 2012...
Depuis 14 ans.
Tu te retrouves à prendre un but en contre.
C'est ça qui est difficilement acceptable.
Voilà, ça serait à la limite un corner et tu te prends un contre ultra rapide.
Mais c'est ce but égalisateur, c'est les circonstances dans lesquelles tu l'encaisses.
Oui, qui pose problème. Voilà.
Vraiment rageant et qui suscite...
Parce qu'en plus, on a fait un super match.
On a fait un super match en première, en seconde période. Et... on était impliqués dans chaque action, dans chaque moment
et
de
même,
jeu.
Et même la presse, les médias ont reconnu qu'on aurait mérité de gagner.
Mais il y a eu un match plein. Je pense que même à la fin de la rencontre, on a entendu Roberto De Zerbi en conférence de presse qui a dit que...
Ah, qui était dithyrambique à l'égard de ses joueurs.
Il y a une très belle prestation de l'OM à l'occasion de ce trophée des champions. Et puis bon,
le problème, c'est que tu prends le premier but, c'est sur un dégagement, sur une relance où tu te fais intercepter et Dembélé se retrouve seul, il lobe Rouli.
Il sur une petite jette bien vue.
Une petite louche, il le lobe. Mais enfin, c'est quand même le ballon d'or, le mec. Et le second, à la 95e, tu prends une contre.
Finalement, ce premier but ne nous a pas impacté plus que cela, puisqu'on a eu un comportement
admirable.
C'est vrai
que ce premier but d'Ousmane Dembélé, il intervient juste avant le quart d'heure de jeu.
Donc,
à la 13e.
Voilà.
Bon, c'est vrai que,
et très franchement, sur le vu du match, on peut gagner. Je ne dirais pas on doit gagner, ça ne veut rien dire. Mais on peut gagner. Il n'y aurait pas eu un vol. Ce n'était pas le hold-up du siècle. Et ce qui, moi, me pose question, je le redis, c'est que tu prends deux buts sur deux grosses fautes défensives.
Et c'est un peu récurrent.
Et ça, malheureusement, ça arrive trop, trop souvent ces derniers dernières semaines pour l'Olympique de Marseille.
Voilà, tu prends, plus sur un match qui mène à un titre. Quoi.
Voilà, mais même en Ligue des Champions à Lisbonne, contre le Sporting, ou au Vélodrome contre l'Atalante, tu prends des buts sur des actions où tu es... Tu es battu ou tu...
Alors, peut-on parler de déconcentration, peut-on parler de mauvais placement, c'est trop facile à dire.
Et
tout un tas de paramètres qui font que...
Mais enfin, c'est vrai qu'il y a quand même un problème défensif.
Oui, à la base, quand tu prends un but...
Quand tu vois l'effectif que tu as derrière, même si là on joue sans Naïef Aguerd qui est à la canne.
Quand on regarde quand même la compo de départ de Roberto De Zerbi, moi je vois que devant Rouli, il y avait quand même Benjamin Pavard, Léo Balerdi, Facundo Medina et Timothy Weah.
Qui ont réalisé une belle performance. Pavard qui est bien revenu.
Ce qui ralentit, c'est que...
Il y avait une compo quand même qui tenait la route.
Ce qui ralentit, c'est
l'incorporation de Geoffrey Kondogbia au milieu, aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg.
Qui a fait un très bon match. Deux ont fait un très bon match.
Absolument.
Et Kondogbia te montre que quand il n'est pas blessé et qu'il peut jouer enchaîné, c'est un joueur d'expérience, c'est un beau joueur. Malheureusement,
j'ai beaucoup aimé Palmieri,
son physique.
J'ai beaucoup aimé un petit peu l'implication.
On a vu quand même un match plein de la part de nos Olympiens sur cette rencontre.
Oui, mais c'est ça qui ralentit. C'est-à-dire que quand tu as l'occasion d'accrocher un titre, c'est plus facile à dire devant un micro qu'à faire sur un terrain. Mais c'est vrai que tu perds une occasion importante. Et
C'est vrai que dans ce début d'année, mois de janvier chargé avec l'enchaînement des rencontres,
c'est vrai
ça aurait mis nos Olympiens en confiance pour la suite de la saison.
Ce dernier match de championnat face à Nantes, ça nous a impacté énormément. Ouais. On allait se refaire la cerise, entre guillemets, sur ce match de trophée.
Mais c'est vrai qu'il fallait impérativement effacer cette prestation cataclysmique des Olympiens au Vélodrome face à Nantes.
Je suis assez d'accord avec toi, dans la mesure où je pense que ce match-là, il y a énormément de choses positives à retenir, que ça va, non pas occulter ce qui s'est passé avant, mais aller
il y a eu de très bonnes choses. Donc
de l'avant, tout à fait.
Il faut quand même capitaliser sur,
sur
ce qui a été
bon
fait.
Et puis, n'oublions pas, si on est honnête, que les deux buts de Paris, que les deux buts qu'on marque sont des erreurs parisiennes. La sortie kamikaze de Chevalier qui bouscule Greenwood et qui
amène ce pénalty.
Et puis le second
il y a eu
but
voilà,
c'est Pacho qui veut dégager.
C'est Pacho qui marque contre son camp et qui trompe Lucas Chevalier sur cette
donc,
action.
Donc Lucas Chevalier qui a été bon dans la séance de tir au but. Mais
et qui a maintenu son équipe pendant la rencontre.
Il a fait un ou deux beaux arrêts.
C'est-à-dire sur la scène de tir au but, on a eu quelques problèmes avec nos tireurs également.
Il y a eu deux échecs, Mato Railé et Ahmed Junior Traoré.
Malheureusement.
C'est un peu. Après, on sait que les tirs au but, c'est beaucoup une question. Enfin, quand tu regardes le lendemain, je regardais l'équipe. Quand tu regardes, ils te mettent un dessin où tu vois les frappes. Tu regardes les Parisiens, les frappes, elles sont rapoteaux.
Oui.
Et toi, tu tires trop axial.
C'est vrai que souvent, dans une séance de tir au but,
C'est la
façon dont tu tires et l'emplacement que tu vises qui est quand même important.
C'est ce qu'on apprend quand on est petit, qu'on joue au foot.
Et tu masques pas, parce que le pénalty que l'OM réussit, c'est Murillo.
C'est Amir Murillo
qui n'est pas un spécialiste non plus. Il masque bien, à aucun moment tu vois où il va tirer, alors c'est Traoré, tu sens avant qu'il tire où il va tirer. Il masque pas assez son geste et le gardien anticipe.
Moi, pour avoir vu la rencontre, j'avais quand même pressentiment que les deux, que ce soit Mato Railé ou Ahmed Junior Traoré, allaient échouer dans cet exercice.
Je suis assez d'accord, dans la mesure où déjà l'égalisation en elle-même nous portait à croire qu'on allait échouer lamentablement au tir au but. C'est plus que dommageable.
Côté parisien, par rapport aux joueurs qui restaient encore sur la pelouse, pour Luis Enrique, on a vu qu'il y avait Gonzalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes Désiré Doué qui ont réussi tir au but.
Tu avais les tireurs qui ont tiré et qui ont gagné les séances de tir au but en finale de la Super Coupe d'Europe.
C'est vrai que le Paris Saint-Germain est une équipe qui réussit plutôt bien ses séances de tir au but.
Et contre un final intercontinental contre
Flamengo. Voilà,
et donc ça te donne aussi une expérience. Parce que je veux bien.
Même si le gardien était différent, puisque c'est le portier russe Matvei Safonov qui est actuellement blessé, qui était dans les buts du
contre
Paris Saint-Germain.
Mais cela dit.
Ce qui nous concerne, on n'a pas pu éviter cette séance de tir au but.
On attendait un éventuel exploit de Geronimo Rulli.
Mais là, c'était au-delà de l'exploit.
Après, quand tu vois les tirs, il ne peut pas grand-chose. Ils sont rapoteaux.
Ils sont imparables.
Ce qui peut-être nous nuit, c'est que ton premier tireur, ça aurait dû être Greenwood. Et
déjà,
il est sorti avant la fin du match parce qu'il il était bouilli.
C'est-à-dire, j'étais un peu étonné, je ne sais pas ce que vous en pensez, du fait qu'il
Après, vous pensez
présent,
que ça a été fait de manière volontaire de la part de Roberto De Zerbi, d'avoir sorti Mason Greenwood à
cette Il semble qu'il se plaignait de douleur. Donc peut-être tu prends pas le risque de qu'il se pète, parce que c'est un joueur essentiel. Donc dans les prolongations tu le sors alors que c'est ton meilleur tireur.
Et c'est vrai que par rapport aux échéances qui nous attendent, et puis on l'a vu, on va revenir sur la rencontre de Coupe de France face au petit poussé de Bayeux hier soir.
On va pouvoir en parler justement. De la présence de Greenwood.
On va revenir sur la prestation de l'Anglais Mason Greenwood sur la pelouse du stade.
À la différence que hier contre Bayeux, hier soir, puisqu'on rappelle à nos auditeurs qu'on fait l'émission mercredi, parce qu'on voulait parler du match d'hier soir.
Oui, justement. On va revenir sur la rencontre des 16e de finale de Coupe de France hier soir.
Il a joué tout le match,
Caen.
Mais il a marché. Il a marché pendant une grande partie du match.
Nous en avons discuté au café tout à l'heure.
Après, l'opposition n'était pas la même.
Oui, ça n'avait rien à voir.
Alors, on pouvait imaginer qu'on puisse le reposer à un moment donné, parce que la différence est en fait depuis très tôt.
Je me permets juste de relativiser et de remettre les choses dans leur contexte.
Disons que c'est un match de coupe où l'équipe d'en face, les amateurs de 6e division de Régional 1...
Il y a quand même 6 divisions d'écart entre
cette équipe de Bayeux.
Le petit poussé de la compétition.
Ils ont fait un choix qui est respectable et qui est courageux d'essayer de jouer.
Absolument.
Sauf que quand tu essaies d'avoir le ballon et d'attaquer contre l'équipe de l'OM, que devant tu as... Tu as Greenwood, tu as Guiri, tu as des joueurs de ballon.
Mais ce que je constate, c'est que l'ouverture du score et le premier but de l'Olympique de Marseille, qui est marqué par Angel Gomez, intervient au même moment que lors du Trophée des Champions l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé.
Mais c'est une action.
Pour l'analogie,
C'est un contre où Murillo est venu dédoubler, il déborde et il centre de quasiment la ligne de but à Gomez qui arrive au point de pénalty.
Très belle
seul,
place
quoi.
De Murillo.
Il fusille. Très belle passe décisive de Murillo. Et donc, les mecs, en fait, tu joues l'OM en coupe. Et tu prends un but en contre au bout d'un quart d'heure de jeu.
Ouais.
C'est vrai que beaucoup d'équipes amateurs
ça reste assez incroyable,
auraient joué derrière, auraient mis le camion, essayé de tenir le plus longtemps possible. Eux, ils ont fait le choix, ce qu'avait fait au tour précédent Bourg-Péronas, où ils ont sorti en deuxième
qui
mi-temps.
Qui s'était exposé, qui en avait pris 6.
En seconde mi-temps, ils avaient explosé physiquement. Voilà. Mais en première mi-temps, tu étais à 0.
Mais c'est vrai que dans ce genre de confrontation, il y a une différence de niveau abyssale entre cette équipe amateur qui évolue en régional.
Mais ils se sont sentis pousser des ailes, ils ont eu quelques incursions dans notre camp, et derrière ça...
Ils ont essayé de jouer, de sortir de derrière et tout, et forcément la différence de niveau technique, tactique, puis même en termes d'expérience. Toi, tu avais Kondogbia Højbjerg au milieu de terrain. Enfin, Højbjerg ne jouait pas.
Par rapport à la compo, il y avait un grand turnover opéré par Roberto De Zerbi. Il y a beaucoup de joueurs
qui
n'ont pas joué hier soir et qui étaient présents sur la pelouse du Koweït jeudi à l'occasion du Trophée des Champions.
Entre autres, il a laissé Aubameyang, Pek Chao à la maison.
Pek Chao et Aubameyang qui n'avaient pas fait le déplacement.
Qui n'étaient pas sur le banc. Et donc,
normal,
si tu veux,
se repose un peu.
Tu avais quand même un milieu costaud avec O'Reilly qui est,
N'oublions pas, s'il a raté le
péno contre Paris un Trophée des Champions, qui est quand même international
et puis,
danois.
Le rôle de Medina également, qui s'incruste avec Palmieri, etc.
Donc, tu as des joueurs d'expérience. Ouais. Et donc,
Facundo Medina, qui avait le brassard de capitaine en l'absence de Pierre-Emile Højbjerg et Léo Balerdi. Avec l'absence du capitaine attitré et du vice-capitaine, c'est... Le revenant argentin, ex-pensionnaire du Racing Club de Lens, qui avait pris le brassard.
Malgré l'opposition, une très belle prestation de sa part.
Après...
Facundo Medina, qui manque encore un peu de rythme, puisqu'on a vu que Roberto De Zerbi l'a sorti à la mi-temps.
Ce qui a permis de relancer Egan Reilly, qui a mis un but de la tête.
Le but du 7-0.
Du 7-0,
qui a fait
un bon match.
Même si c'est vrai, ça peut paraître anecdotique, mais bon, c'est quand même important.
Pour lui,
mentalement, c'est important. Il joue, il est dans le groupe, il marque un but, donc c'est important. Et donc,
après,
ça
on sait que ces derniers
relancer.
Temps, il y avait, on va revenir, parce qu'on va évoquer un peu le mercato hivernal dans lequel on est, là, puisqu'on est à la mi-janvier. On a entendu parler d'un éventuel départ d'Egan Reilly. Je ne sais pas ce qu'il en est précisément.
Est-ce que c'est vraiment le souhait, la volonté de
Mehdi Benatia et Pablo Longoria?
Je crois que c'est un remplaçant, c'est un joueur costaud qui, en plus, d'après ce qu'on sait, c'est un mec qui ne pose pas problème dans le vestiaire. C'est un mec correct, sympa. On chercherait à vendre en plus des habituels lofters, c'est-à-dire Lirola, Blanco, Ulysse Garcia et Mopé. On verra si on arrive à...
Encore que peut-être le statut de Neil Mopé a peut-être changé, puisque... La donne a changé depuis 48 heures et ce départ de Robinho Vaz, on va y revenir un peu plus en détail.
La question qui me...
Et surtout, je pense que ça doit pas mal susciter d'interrogations de la part des supporters, ce départ de la jeune pépite de 18 ans acheté 200 000 euros il y a 2 ans au AC Sochaux Montbéliard.
Ma question est là, on peut en discuter. Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré ? Alors évidemment qu'il y a une question d'argent au milieu. Il est vrai que Rome propose une somme, quand même, on ne va pas fermer les yeux à cela. C'est important. Évidemment qu'il y a eu des offres d'Olympique de Marseille pour prolonger ce joueur.
Mais c'est vrai que jazz, ces derniers temps, y avait quand même un sujet qui tendait à crisper un petit peu la direction de l'Olympique de Marseille autour d'Aril Bacola et Robinho Vaz concernant leur situation contractuelle. Et puis c'est on s'aperçoit que...
Alors, de deux choses l'une, il y a deux pépites peut-être en demeure, mais peut-être qu'un attaquant, évidemment, nous fait défaut. Mopé devrait partir, mais quid de...
On sait qu'il a reçu des propositions de l'Espagne, notamment du FC Séville, d'Italie, de Pise, une équipe promue qui est dans les bas-fonds de la Serie A italienne. Mais quid de l'avenir de ces joueurs.
Alors, c'est pas des mauvais mecs, c'est des mecs qui posent pas de problème.
Non, mais apparemment, je pense que la direction et Roberto De Zerbi a loué l'attitude,
leur mentalité. Après, le problème, c'est qu'ils ont ces 4 joueurs, ils ont 4 salaires, et que ces salaires te posent problème.
Donc, si tu arrives,
je pense que concernant Nil Mopé, c'est surtout son salaire qui pose problème. Je pense que ça a dû rébuter.
Il est à 250 000 par mois, brut.
Les éventuels acheteurs font peut-être.
Hésitent parce que.
Ils sont dans une position d'attente à l'heure actuelle pour savoir si.
Après, sur ce qu'on peut savoir.
S'ils tentent le coup ou pas.
Par des relations, parce qu'il se dit un peu, Robinho Vaz, c'est un problème de confiance avec son entourage. Comme Daryl Bacola, où quand tu regardes, y compris ce qui est reconnu officiellement, c'est écrit dans l'équipe, mais c'est que, l'OM a fait des propositions et son entourage n'a pas répondu, contre-proposé. Donc tu te dis, le mec il me demande de 2 ou 3 millions l'agent pour que le joueur prolonge. Le mec, il me demande 200 000 par mois. C'est quand même un jeune qui a une vingtaine de matchs en comptant les rentrées en jeu. Quoi. Il n'a que 18 ans.
C'est sur tout cela qu'il faut souligner.
Voilà, donc à un moment
il a très peu d'expérience, même si c'est vrai que cette année, il a quand même goûté aux joutes européennes avec quelques apparitions en Ligue des Champions. Et puis plutôt des apparitions remarquées.
Alors, est-ce qu'il a des prétentions salariales un peu au-dessus de ce que l'on attend de lui ?
Est-ce que c'est le gamin ou est-ce que c'est l'entourage ?
Oui, très probablement.
Parce que quand un agent demande 2 millions pour que son joueur prolonge, tu peux te dire si le mec il joue un peu, il marque quelques buts, il va venir taper
à la porte. Après, vous croyez vraiment la réussite de Robinho Vaz dans le championnat italien en Serie A? On sait qu'il sera entre les mains d'un grand technicien, personne de Gianpiero Gasperini.
On ne peut pas le nier. Maintenant, c'est sûr qu'il y a point d'interrogation. Est-ce qu'il va s'adapter justement à ce qu'on
a fait? Il n'a pas perdu au change au niveau du clutch avec Roberto De Zerbi et Gianpiero Gasperini. Un vieux briscard sur les bancs de Serie A.
Ce qui est marqué dans l'équipe ce matin, il aurait 1,5 million de salaire annuel. Alors qu'à l'OM, il était à 10 000 par mois et on lui proposait 60. Donc on lui proposait même pas la moitié.
Soit, les négociations de l'OM ont échoué à ce niveau-là.
Mais dans une négociation, tu proposes 60 000 par mois, c'est ce qui était dit, semble-t-il.
Mais c'est les chiffres qui ont été avancés.
Voilà, ça se discute. Ça veut dire que si tu parles 80, 90, ça se discute. Quand le mec, il te dit 250 en face, l'écart, il est quand même important.
Donc, que Robinho Vaz, c'est un écart conséquent. Hein.
Est-ce que Robinho Vaz aurait fait... Parce que là, je le vois, là, on a vu... Tu parles du mercato, Thierry. Eli Wahi vient d'être prêté à Nice. Eli Wahi, il flambait à Montpellier, il est parti à Lens. Ça pas marché, il est venu à l'OM au bout de 6 mois. Tu as réussi à trouver l'Eintracht Francfort qu'il a acheté.
Il a eu un temps de jeu famélique du côté de l'Allemagne et avec l'Eintracht. Et là, il se relance bien avec Claude Puel.
Il a joué un match, il a mis un but. Oui. D'accord. Maintenant,
avec l'action de jeu.
Et je lisais sur un jeune qui est brillant aussi, qui est celui qui
joue. Là, ce week-end, ils se sont qualifiés en 16e de finale Coupe de France sur la pelouse de Nantes, qui nous a brillamment battu la semaine dernière en championnat.
Mais
donc,
quand tu regardes le jeune d'Angers, la Chérifi, Chérif,
la jeune pépite angevine.
Ils en demandent 30
sacré
millions.
Sacré joueur, mais alors une cote trop.
Tu te rends compte que Paris FC, ils ont reculé, que les Anglais, à 30 millions, il a une vingtaine de matchs de Ligue 1, le gars. Il a 18 ans et demi. Ouais. Attention.
Le Sceau d'Angers qui sera le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille. Oui, rappelons-le, samedi soir, lors de la 18e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Raymond Kopa.
Alors l'avantage, c'est que comme le mec il est sur le départ, il ne sera probablement pas sur le terrain. Mais c'est plutôt une bonne chose. Il nous avait mis un but au Vélodrome, il nous avait fait mal. Le mec est bon.
Oui.
Et à la limite, il était titulaire Angers, il a peut-être un peu plus montré que Robinho Vaz. Maintenant, de là, à coûter 25-30 millions et à avoir un salaire considérable.
Alors, justement, pour revenir au Robinho Vaz, si on commence à aller dans son sens, à lui donner l'argent qu'il désire, ça peut faire jurisprudence avec d'autres joueurs dans son cas, quoi, qui sont jeunes et prometteurs.
Voilà, donc
c'est vrai, tu fais bien de le dire, Franck.
Moi, je parlais avec un copain qui est un peu dans l'entourage du club, quoi. Il m'a fait un rapprochement avec un garçon qui s'appelle Enzo Sternal.
Oui.
Si nos auditeurs se rappellent.
Il n'y a pas si longtemps.
C'est arrivé il y a quelques années de l'AS Nancy Lorraine et qui évolue aujourd'hui en Jupiler League en Belgique avec Anderlecht. Ouais.
Et Enzo Sternal, on en parlait comme un futur grand.
Voilà, oui, on le présentait comme
prometteur
étant.
Prometteur chez nos jeunes, tout à fait.
Voilà. Et
un joueur très prometteur.
Il a fait ses débuts, ses deux herbies qu'il avait lancés à Brest en championnat. Il a fait quelques matchs avec l'OM. Mais il avait du mal à passer le... Et donc, le mec, il a eu des
histoires.
Peut-être
que la marche était trop haute.
Voilà, un peu vite. Voilà. Ça va
après,
un peu vite.
Après, on sait qu'il est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille relativement jeune. Hein,
oui, à 17 ans.
En provenance de l'Est
en
Lorraine.
Il était international à 17 et tout. Et le mec, finalement, il voulait jouer. Donc, on a fait un truc qui est pas mal. Mmh. On l'a vendu pour une somme dérisoire. Anderlecht, mais avec 30% sur un bénéfice à la revente.
Oui.
Ce qu'on fait sur Robinho Vaz, tu prends un bénéfice, c'est-à-dire s'il est vendu plus cher que ce que tu l'as vendu, tu as un pourcentage sur le... D'ailleurs, qu'on va donner à Sochaux de
ce qui se fait dans ces sessions-là.
Quand on l'avait acheté, il y avait un pourcentage.
Il est arrivé il y a deux ans en provenance du FC Sochaux pour la maudite somme de 200 000 euros.
Et aujourd'hui, Sternal... moi je l'avais vu en équipe de France U17, j'avais trouvé très fort, j'avais trouvé très intéressant.
On voyait qu'il avait un gros potentiel, ce jeune.
Anderlecht, il n'est pas titulaire, il joue, il n'est pas titulaire, il a un peu des difficultés.
Et on sait que le football belge,
le niveau
sans faire offense à nos amis belges, puisque l'OM a battu l'Union Saint-Gilloise champion l'an passé et qui s'apprête à jouer dans deux semaines un match de Ligue des Champions sur la pelouse du stade Yann Bredel face au club de Bruges.
Voilà.
On va découdre avec une autre équipe.
Voilà. Et donc le championnat belge est un bon championnat, et le gars. Belgique,
mais c'est vrai que par rapport au championnat de France, c'est la Ligue 1.
Il n'explose pas les compteurs, quoi. Voilà, il n'est pas... Et donc, tu peux te dire que, attention aux gamins, moi, je m'en rappelle toujours, de Isaac Liadji, qui était...
Ah ouais, ben justement, c'est un cas qui est revenu...
C'est un autre imbroglio, évidemment. Voilà. Ce sont les agents et l'entourage des jeunes
joueurs
qui font malheureusement une politique qui est dans le show business, mais pour leurs joueurs et pour eux-mêmes.
Et je ne suis pas persuadé...
Non, pas pour son évolution.
Je le dis sans rancœur, je ne suis pas persuadé que la Roma... la Roma, le championnat italien, c'est costaud. Va t'imposer à la Roma.
Déjà, l'adaptation là-bas. Ouais,
quand tu vois les joueurs qu'il y a à la Roma, je veux bien dans la rotation, mais quand tu vois l'équipe de la Roma, vas-y, prends la place.
Et surtout, peut-être que devant.
Je sais pas si avec
Paulo Dybala, Artem Dovbyk,
Matias Soulé, l'international ukrainien. Tu as une grosse équipe.
Du très beau monde.
Il y a énormément de qualité, cette équipe de la Roma. On l'a vu en première partie de saison face à l'OGC Nice en Ligue Europa.
Ah ouais. Et je ne sais pas, Thierry, ce que tu penses de l'adaptation pour un jeune de son âge dans un pays différent qui n'est pas si loin de chez nous. Le contexte, le club en lui-même, s'adapter là-bas.
Après, c'est vrai que la pression n'est pas la même.
Hein. Oui, oui. Bon, c'est pas Marseille.
Mais bon, c'est vrai que les tifosi de l'AS Roma, il va découvrir l'ambiance chaude et sulfureuse du stade olympique. Notamment lors des derbies face à la Lazio.
Voilà. La différence, c'est qu'à Marseille, il était formé, même s'il était à Sochaux il y a deux ans.
On peut dire qu'il était
formé, il était du club. Donc les supporters t'apprécient, t'encouragent, gamin, vas-y petit.
Sommes plus tolérants.
Tu as coûté 25 millions et tu as un salaire.
Oui, parce qu'on rappelle pour nos auditeurs qu'on parlait d'un prêt avec obligation d'option d'achat et finalement c'est un transfert sec et l'Olympique de Marseille donc enregistrera en retour de la part de la direction italienne de l'AS Roma un chèque de 25 millions d'euros.
Ça m'a semblé un peu surprenant
de même. Mais c'est un pari pour la Roma, pari.
C'est quand même une très belle vente pour la direction de l'OM, mais un bon coup pour réaliser par les dirigeants marseillais.
Tu joues, mais moi, si je me place dans l'intérêt.
Après, sur le plan sportif, ça peut être compliqué.
Je me place dans l'intérêt du gamin, est-ce que. Un pays que tu ne parles pas la langue, que tu ne connais pas, même la bouffe est légèrement différente.
La nourriture.
L'entraînement n'est pas le même.
La capacité d'adaptation. Voilà.
On en revient à cela.
La Roma, bon, après, quand tu as joué à l'OM, tu peux jouer à la Roma.
Ce n'est pas une question d'environnement.
Voilà. Mais quand même, c'est dur. Et la différence entre le petit jeune de la Gambardella. Tout le public allait petit, vas-y. Et puis le mec qui a acheté 25 millions et qui a un gros salaire.
Ah, on a un œil différent.
Voilà. C'est pas la même réaction. Je suis pas sûr que les supporters de la Roma auront la tolérance que les supporters de l'OM avaient. Pour lui, comme on a eu pour Barcola.
Ainsi soit-il.
On va scruter ça de près. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a encore 5 minutes avant de clôturer, terminer cette émission.
On pourrait peut-être parler du tirage au sort de la Coupe de France. Avant le match de l'OM hier. Ouais.
Voilà, Damien Perquis sur les antennes de Bein qui a désigné donc, comme adversaire pour ses huitièmes de finale un gros morceau quand même, le Stade Rennais. Voilà, qui nous avait battu lors de la première journée de Ligue 1.
C'est un gros morceau.
Voilà, cette équipe de Habib Bey qui s'est imposée 3 buts à 1 ce week-end face à une équipe de National 2, Chantilly. Mais bon, ce sera l'occasion de retrouver des anciens joueurs de l'OM comme Lilian Brassier, Valentin Rongier.
On va dégager les points positifs. Voilà.
Une belle opposition. Voilà, un match qui aura lieu au Stade Vélodrome le mercredi 4 février à 21h.
Le truc, c'est que tu joues au Vélodrome.
C'est ça. Ça se déroulera le 3 et le 4, 5 février.
Un match qui interviendra entre deux déplacements à Paris, puisqu'on sait que 4 jours auparavant, il y aura un déplacement au Stade Jean-Bouin face au Paris FC. Et 4 jours après, le match retour pour le Classico et peut-être la revanche face au Paris Saint-Germain.
C'est les huitièmes, il y a 16 équipes, il y a 10 Ligue 1 et 6 Ligue 2.
Voilà. C'est la première fois depuis 35 ans que
J'ai la liste sous mes yeux des matchs. Voilà.
Et juste un petit mot à l'occasion de ce tirage au sort, c'est qu'il y a l'équipe de Laval qui défiera l'Olympique Lyonnais, vainqueur à Lille avec le premier but du jeune Hendrick, qui a éliminé le FC Istres ce week-end.
Et disons que tu as trois matchs entre
le niveau était différent,
entre Ligue 1, puisque nous on reçoit Rennes, il y a un Strasbourg-Monaco.
Il y a de belles affiches.
Il y a un Lorient-Paris FC. Mais...
Par rapport à ce tirage au sort, Patrick, je voulais vous entendre sur l'élimination du Paris Saint-Germain à ce stade de la compétition. Voilà, le PSG qui s'est incliné 1-0 après le trophée des champions remporté au Koweït la semaine dernière.
Parisien, on peut s'entendre. Non, là, je blague. C'est une boutade.
Non, mais bon, est-ce que c'est malgré les équipes qui restent encore en lice, c'est quand même une autoroute pour l'Olympique de Marseille pour aller chercher le trophée.
J'estime que c'est une grave erreur d'avoir ce discours-là, comme beaucoup de médias.
Il faut quand même tempérer et mettre en garde les supporters.
Parce que moi, j'ai vu sur l'équipe pas plus tard qu'hier. le Starbé, Johan Rioux.
Oui.
Ah non, mais qui est là. Ça serait une faute professionnelle de ne pas gagner la Coupe pour l'OM.
Mais nous qui connaissons bien le football et qui,
voilà, et Monaco,
qui revendiquons
et
une analyse d'expert.
Et Lens qui est leader du championnat. Non, mais Lens qui est leader du championnat.
Oui, il faut pas
et eux, bon, alors attention, Lens ne sont pas encore qualifiés. Ils vont jouer à 3, le leader, non, le leader de
le
la
dis,
Ligue 2.
Strasbourg-Monaco sont toujours de la partie. Voilà.
Cette équipe de Lens qui viendra au Stade Vélodrome dans 10 jours et qui s'est qualifiée lors d'un match remis, puisque on sait qu'il y avait de grosses intempéries sur la pelouse de Sochaux, donc qui a joué son 8e de finale, son 16e dimanche après-midi.
Et donc tu as Lyon qui reçoit Laval, qui est théoriquement, Lyon qui a une belle équipe. Tu as Monaco qui joue à Strasbourg,
ça,
Monaco,
c'est
le vainqueur. Nous, on joue Rennes, mais Rennes, ils peuvent
Monaco
aussi.
Monaco qui est encore engagé en Ligue des Champions et qui a eu un match très compliqué sur la pelouse de Orléans ce week-end, à l'occasion des 16e.
Après, la Coupe, on sait que tu
peux. Recevoir Rennes, ça, c'est un match de Coupe, un super match. Ça,
c'était Luis Fernandez, l'ancien joueur.
Très vite,
entraîneur,
il nous reste une minute.
Voilà, qui expliquait un jour que lui, il avait gagné la Coupe en étant passé à 32e au tir au but contre une équipe amateur. Donc ça ne veut rien dire, la Coupe, c'est pas un championnat.
C'est
donc
la Coupe véritablement.
Attention, ça nous ouvre une perspective de dire toutes les équipes, on peut les battre, si
ça,
on
c'est
joue
évident.
Normalement.
C'est évident.
Par contre, de là à dire on va absolument gagner, c'est ne rien connaître au football. Parce que moi, j'ai vu le PFC-PSG, PSG. Si Barcola il fait son boulot, si Doué il fait son boulot, et Dembélé aussi, Paris.
Et d'ailleurs, on a entendu l'analyse de Luis Enrique juste après en conférence de presse, il a dit que
Je suis sûr qu'ils vont travailler sur la, parce que
surtout qu'en plus il y a
quand même parce que
il y a un gros rendez-vous qui les attend vendredi soir avec la réception de Lille au Parc des Princes pour cette 18e journée.
Et une équipe de Lille qui a été éliminée en coupe
face à Lyon à domicile.
Et quand tu regardes le match, PFC, ils ont une occasion, ils la mettent au fond.
Les Parisiens, ils en ont 10. Le Paris Saint-Germain a un peu vendangé devant.
Ah oui, un peu. Un gardien qui a fait un très gros match, mais si tu le fusilles, tu le fusilles.
Voilà.
Et donc, ne pensons pas que c'est. Voilà, ça ne veut rien dire. Paris peut en mettre 5 contre lui.
Commençons par battre réception des Rennais, et après, nous verrons pour la suite dans la compétition.
On aura l'occasion d'y revenir. L'émission touche à sa fin. On va rendre l'antenne et on va dire au revoir à nos auditeurs. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% foot. Voilà. Prochain rendez-vous pour l'Olympique de Marseille. Ça sera la 18e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Raymond Kopa à Angers, samedi soir. À 21h05.
Très vite,
Donc on suivra ça et la semaine prochaine, donc, on se retrouvera pour faire le débrief de cette rencontre et on reviendra aussi, messieurs, sur la rencontre de Ligue des Champions qui nous attend face aux Reds de Liverpool mercredi prochain au Vélodrome. Voilà, on dit au revoir à tous nos auditeurs et on vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine.
Bonne
à la semaine prochaine.
À toutes et à tous, à très
bientôt. Bye bye à tous.
Revoir.